Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour de la chaleur? Je parle de la température dehors, mais on va créer notre propre chaleur aussi avec la louange et la parole. Prions ensemble. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ta servante écoute. Aide-moi, par ton esprit, à voir comment vivre cette parole que je vais entendre dans ma vie. Au nom de Christ. Amen. La prière, une bénédiction déguisée. C'est le titre aujourd'hui. Et nous allons commencer par la lecture de trois courts passages du Nouveau Testament. Alors, premièrement, Hébreux 10, 25, un petit verset qui dit ceci. « Encourageons-nous mutuellement, faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Deuxième texte, il est celui-ci dans Éphésiens 6, versets 18 à 20. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Pour moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui écrit, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. C'est-à-dire, il était en prison et il demande des prières pour pouvoir parler de l'Évangile dans sa prison. Priez donc afin que je trouve dans cet Évangile la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. Un troisième texte, et là c'est Jésus qui a enseigné ceci. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Wow! Ce sont trois bons textes, et ils ne sont pas si longs. Et on voit que ces textes reflètent quand on lit un peu le contexte, il y a une atmosphère de fin du monde, cette atmosphère d'attente fébrile de la venue de Christ, de la fin du monde, qui est imminente. Et ça crée, entre celui qui écrit et les personnes qui reçoivent ou qui lisent, une motivation de groupe quand même élevée. Let's go! La fin s'en vient, il y a comme une genre d'urgence, une genre de priorité. Le temps est court, les enjeux sont grands. En parlant de cette anticipation, alors tout le monde ou beaucoup d'entre nous qui écoutent les nouvelles, on sait qu'il y a vraiment des drames, des crises, des angoisses dans le monde d'aujourd'hui. Et autour de nous, les gens, même qui ne sont pas nécessairement chrétiens, eux aussi, il y a quelque chose qui se passe en eux. J'étais cette semaine dans une réunion communautaire à Dorval, j'habite à Dorval, et dans la réunion, quelqu'un a dit en passant, je suis stressé, je suis angoissé par rapport à la possibilité de la Troisième Guerre mondiale. Elle a dit ça en passant. Ce n'était pas le sujet de la réunion. On a continué, mais c'est sorti comme ça. Et quand on a socialisé après la réunion, on est revenu un peu sur le sujet. Et à un moment donné, j'étais seul avec un autre homme qui, lui, est ouvert aux choses de Dieu. Et il m'a demandé, « toi, t'es pasteur, et vous, là, est-ce que vous croyez à la fin du monde? Est-ce que la Bible parle qu'il va y avoir une guerre nucléaire qui va être la fin du monde? Alors, bon, j'ai prié, j'ai improvisé une réponse. J'ai dit, bien, il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, il a enseigné quand même beaucoup de choses sur la fin du monde. Et il a dit qu'il y aurait des guerres, des famines, des malheurs, mais qu'au niveau de quand il y aura la fin et comment, c'est vraiment Dieu lui-même qui va en décider. Ça pourrait être par des actions humaines, mais d'après moi, on dirait plus que c'est des choses qui vont descendre du ciel, des cataclysmes que Dieu envoie directement. Je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, dans notre Église, on met l'accent sur le fait que Jésus a donné le mandat aux chrétiens de proclamer l'Évangile dans le monde entier. Et c'est après que cette tâche est finie que Dieu va amener la fin, puis Jésus va revenir. Il m'a demandé des questions là-dessus. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des églises dans toutes les nations? J'ai dit non. En fait, sur les 8 milliards de personnes sur la Terre, il y a quand même encore plusieurs milliards où l'Évangile n'est pas vraiment disponible, sauf par des moyens quand même compliqués. Mais j'ai dit que c'est Dieu qui décide. J'ai dit, si Dieu évalue qu'en 2025... on est en 2025, le travail est terminé. Si Dieu évalue que c'est terminé, il va faire venir la fin avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est possible que les troubles actuels au Moyen-Orient, ça s'est passé avant les événements de la nuit qu'on vient de passer en Iran. J'ai dit, c'est possible que ce soit un signe que la fin est en train de commencer. Conversation à suivre. Vous en avez peut-être des conversations comme ça dans vos familles ou à votre travail ou autre. Et on fait notre possible pour répondre et on prie que Dieu fasse le reste. Mais la situation dans le monde trouble les gens. Et Troy, qui est notre nouveau directeur régional, notre directeur de district, je parlais avec lui. Il y a quelques mois, il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au Québec. Au niveau, les gens se questionnent, les gens sont plus ouverts à écouter les réponses des chrétiens et peut-être même répondre à une invitation. On se souvient d'un mot aussi qui a été dit dans notre assemblée, il y a plusieurs semaines, une sorte de mot prophétique, on pourrait dire, quelque chose que Dieu a mis sur le cœur d'une sœur. Elle a dit à voix haute dans l'Église, elle a dit, des temps difficiles arrivent. Il faut mettre Dieu en priorité dans nos vies. Il y a des temps difficiles qui arrivent. J'ai pensé, oh, ça touche quelque chose que moi je ressens et beaucoup d'autres. Donc, si nous devons nous préparer pour ce travail d'accueillir des nouvelles personnes, peut-être on pourrait dire même plus, une moisson, peut-être une nouvelle moisson spirituelle de gens qui cherchent des réponses, il faut nous préparer. Et la prière, c'est le meilleur moyen. La prière, c'est le moyen. On le voit dans l'Église du Nouveau Testament, dans les textes qu'on a lus. Il y a ce sentiment que Dieu est à l'œuvre et la communauté qui partage ces écrits qu'on lit, c'est comme on veut se mettre proche de lui, on veut se mettre à son diapason, en harmonie avec Dieu. Eh bien, le meilleur moyen, c'est la prière, et j'ajouterais la prière ensemble. Oui, la prière individuelle est importante aussi. Mais la prière ensemble, c'est quelque chose de fort. Et on va en parler maintenant. C'est quand même un défi pour beaucoup d'entre nous, la prière elle-même, mais la prière ensemble, on a pas mal d'obstacles. Et ça peut être des obstacles externes. Peut-être c'est les défis de ta vie. Peut-être que les déplacements pour te rendre dans un groupe où on prie, c'est compliqué pour toi. C'est fatigant pour toi. Peut-être c'est juste que ton horaire est tellement chargé que tu es épuisé, puis tu as besoin de te reposer les soirs où il y a des groupes de prière. Ça peut être aussi, peut-être que ta vie de famille est particulièrement difficile. Tu as un enfant qui te cause beaucoup d'ennui ou de soucis et tu sens que c'est difficile pour toi de te détacher pour prier à l'extérieur de la maison. Évidemment, très important aussi, la prière ensemble à la maison. Mais voilà des défis extérieurs. Puis, il peut y avoir des défis intérieurs à mon cœur. Peut-être que je suis un débutant, moi, dans les réunions de prière, puis je me dis, l'idée de prier à voix haute quand il y a des gradués, des experts qui prient de tellement belles prières. Et moi, je suis trop gêné. C'est mieux que j'y aille pas. Je me sens pas à l'aise. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette crainte-là. Je parle aux anciens parce qu'on oublie cette gêne-là. Peut-être aussi que tu es une de ces personnes qui se dit, moi, pour être honnête, j'ai un malaise à endurer la manière de prier d'autres personnes. Il y en a qui disent « Alléluia » trop souvent. Il y en a qui prient trop longtemps. Il y en a qui lèvent la voix, le volume très haut, et ainsi de suite. Et ça peut être ça qui fait que « Ah, je ne sais pas si je veux y aller. » D'autres aussi, c'est peut-être théologique. C'est que tu te dis, mais allez prier et puis expérimenter le silence de Dieu après. Tu sais, comme on demande que Dieu agisse dans tel domaine et puis il n'y a rien qui se passe pendant des jours ou des semaines ou des mois ou peut-être des années. J'ai comme peur de ça, puis je me dis, peut-être c'est mieux d'aller mollo au niveau de la prière plutôt que de vivre ce silence-là. Peut-être aussi, c'est juste, oui, le Nouveau Testament, et Dieu agissait vite, ça bougeait, il y avait de l'action, mais le Dieu d'aujourd'hui, entre guillemets, il agit tellement lentement, puis dans l'invisible, puis dans le silence. Peut-être que je me dis, allons-y mollo dans la prière. Ne nous empressons pas trop vite. Dieu, il n'est pas pressé. Moi, je vais vous parler de ma maladie à moi par rapport à la prière. Oui, c'est vrai que je vais dans beaucoup de réunions, mais j'ai une condition spirituelle qui est, je vais la décrire. Peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans toi aussi. La prière, c'est quand même pas mal assez passif comme activité. Si moi, j'ai 5 minutes ou une demi-heure, j'aime mieux produire quelque chose qui représente du travail, une activité, plutôt que être dans la passivité. Et c'est vrai que je me souviens, Barry Watley, qui a déjà été pasteur de cette église, il avait prêché ici une fois, il dit, la prière, c'est justement le moment où tu arrêtes de travailler et que tu parles à Dieu. Et moi, j'ai de la misère avec ça, parce que j'ai grandi dans un monde capitaliste où j'ai appris depuis un jeune âge le temps. C'est l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Le temps, c'est l'argent. Et donc, on, on a cette manière-là de penser, puis je dois avouer que ça fait partie de ma mentalité. Alors, tous ces obstacles, et on pourrait en mentionner d'autres, il y a des vérités là-dedans, mais ce sont des demi-vérités mélangées avec du mensonge. Par exemple, ma maladie en moi, j'ai trouvé un bon antidote, cette parole d'Andrew Murray, un grand écrivain chrétien qui avait écrit une fois, « Quand je travaille, c'est moi qui travaille. » Puis c'est vrai que j'aime ça, moi, d'accomplir mon travail à moi. Mais quand je prie, c'est Dieu qui travaille. Alors, moi, ça m'aide beaucoup de réfléchir à ça, de dire, je vais mettre du temps à part. Et des fois, c'est dans ma journée de travail. Je vais dire, je vais prendre 5 minutes d'arrêt total. Ça peut être plus. Mais déjà, 5 minutes, essayez. Si vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas facile. Et je vais arrêter de travailler et je vais parler à Dieu qui est en train de travailler. Dieu qui est en train de faire avancer mon travail pendant que moi, je lui parle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même durant la nuit, on peut prier et dire, Dieu, merci que tu es en train de préparer la journée et de préparer les choses dans lesquelles je vais embarquer et pour lesquelles je suis un peu préoccupé cette nuit. Mais tu prépares ça. Quand je travaille, c'est moi qui travaille. Mais quand je prie, c'est Dieu qui travaille. Oh Seigneur, fais de nous des gens qui prient et qui veulent te voir transformer les situations de manière surprenante. Amen. Le message n'est pas terminé, c'est juste que je suis en train de prier pendant mon message. Hein? J'essaie de pratiquer ce que je suis en train de prêcher ici. Alors, la réalité, la prière pour toi, c'est un privilège à découvrir, une source de bienfaits à te plonger dedans, une source de bonheur même à vivre, une arme puissante par rapport aux choses qui t'inquiètent et aux défis que tu vis. Elle est une bénédiction déguisée. Mais une bénédiction. Mais je dis déguisée, vous comprenez pourquoi? À cause des obstacles. Une bénédiction déguisée. Et le défi que je nous lance ce matin, en cette période d'été qui commence où nos programmes ralentissent, gardons en tête et gardons dans nos cœurs l'importance et la valeur de la prière ensemble. Dans des situations planifiées ou spontanées. Alors, planifier, c'est simple, c'est votre groupe maison qui va vous dire quand, c'est votre pasteur qui va vous envoyer un courriel pour vous dire quand. Mais spontané peut être d'arrêter, et ça, j'aime ça, quand quelqu'un me dit, Marc, OK, ça fait 10 minutes qu'on parle d'un problème. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble par rapport à ce problème-là? Et des fois, ça transforme le négatif en positif. Donc, planifié ou spontané, ça peut être en couple, ça peut être quand on rencontre un autre chrétien dans une situation inattendue et qu'on a quelques minutes. En cette période d'été, gardons dans notre cœur l'importance de prier ensemble dans des situations planifiées ou spontanées. J'aimerais donner quelques points de motivation par rapport à ce défi. Alors, le premier point, c'est que lorsque les chrétiens... Il y a un œuf de Pâques, là, mais c'est parce qu'il y a une photo qui va aller dedans. C'est pas un œuf. Mais, oh, wow, c'est petit. Quand les chrétiens prient ensemble, Dieu est présent et actif. C'est une réalité que la Bible dit et qu'il faut accepter par la foi. Et j'ai mentionné Actes 4, verset 31. Bon, c'est, euh, C'est le fameux passage où la première église vit des difficultés à Jérusalem. Il y a des apôtres qui ont été jetés en prison et ils ont été relâchés et la communauté décide de se mettre ensemble pour prier et Dieu vient à leur rencontre. Le lieu dans lequel ils sont commence à trembler. Non, OK. Mais c'est comme un tremblement de terre. C'est Dieu qui vient leur dire, « Oui, oui, je vous écoute, j'aime ça, votre réunion, je participe. » Et là, c'est marqué, et ils sont tous remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Bien, au moment où la dernière prière finit par « Amen », ils sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, c'est grandiose comme récit, mais est-ce que ça ne montre pas que Dieu aime ça, participer aux réunions de prière? Il aime être présent, il aime être actif en réponse aux prières et même pendant la prière pour nous dire quoi prier, on va parler. Donc, même si nous notre expérience de Dieu, elle est la plupart du temps presque toujours moins grandiose, mais elle est quand même tout aussi réelle. Dieu promet de participer à nos rencontres. Et on l'a lu tantôt que notre maître nous a dit, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et vous savez, le verset qui est juste avant, c'est par rapport à la prière. Jésus, il dit, « Je vous dis que si deux... » Il mentionne même pas la troisième personne. « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Alors, ça montre que la réunion de prière, donc où on est plus qu'un, et on se met d'accord devant le Seigneur de demander quelque chose, Dieu, il a vraiment à cœur d'écouter, de venir, de répondre. Et c'est sûr que c'est quelque chose à... Il faut développer notre foi en cette promesse-là. Matthieu 18, versets 19 et 20. Dieu promet de répondre et Hébreux 4, 16 va dire... « Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce. » Ça, c'est le trône où notre grand prêtre Jésus est assis. Et c'est vrai que des fois, on nous demande de prier le Père au nom de Jésus, puis Jésus supporte notre prière. Mais dans Hébreux, c'est comme on parle à notre intercesseur divin, Jésus lui-même. Et ça dit qu'on va trouver grâce à ce trône-là pour être secouru au moment... opportun. Voilà les mots qui sont écrits là, au moment opportun. Donc, Dieu, il a son temps à lui pour répondre. Il faut relaxer au niveau de, bien, quand on peut, et du camp. Et juste dire, Seigneur, merci d'avance de répondre au moment opportun. Et à ta manière aussi. Peut-être que j'ai une manière d'imaginer comment la réponse va venir et ça sera peut-être d'une autre manière. Mais une chose est sûre, Dieu va répondre. Et j'aimerais ajouter ceci que Dieu dit qu'il va nous aider à savoir quoi prier. Même Paul, qui était un excellent intercesseur selon moi, il dit « L'Esprit nous vient en aide ». Dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots et que les mots ne peuvent exprimer. Ça, c'est Romains 8, 26. Ça veut dire que des fois, quand tu pries, tu peux dire, « Ah, je suis inquiet pour mon cousin. » Je donne un exemple. « Je suis inquiet pour mon cousin. » J'ai aucune idée quoi prier exactement. Saint-Esprit, tu es déjà en train de prier pour mon cousin. Je me connecte à ta prière. Et puis peut-être il va te donner des mots précis pour savoir quoi prier pour ton cousin. pour que tu puisses prier avec ton intelligence. C'est vraiment une joie qu'on peut apprendre à apprécier que Dieu répond à nos prières. Cheryl et moi, on fait partie d'un petit groupe d'intercession avec d'autres. Et la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on a une feuille de sujets de prière. Et en haut de la feuille, c'est les actions de grâce. Merci Dieu. Gloire à Dieu pour telle chose qui se passe. En bas de la feuille, c'est les demandes. Seigneur, on a besoin d'aide pour telle chose. On a tel souci pour telle chose. Et donc, c'est une réunion à tous les mois. Puis c'est merveilleux que le mois suivant, souvent, on va voir quelque chose qui était dans les requêtes en bas va être dans les remerciements en haut. Pourquoi? Parce que Dieu y a répondu. Seigneur, aide telle personne qui est à l'hôpital. Seigneur, on t'a demandé de lui redonner sa santé. Merci. Elle est retournée à la maison. Elle va bien. Elle n'est plus à l'hôpital. Chose simple qui paraît banale, mais oublie pas qu'est-ce que tu as demandé. Oublie pas qu'est-ce que tu as demandé parce que c'est un signe que Dieu y a répondu. OK, donc ça, c'était la première motivation. C'est que quand... Oh, la photo. Oui, ça, c'est comme le vent du Saint-Esprit qui vient à notre rencontre quand on prie. Voilà. l'œuvre de Pâques. C'était pour le vent de Dieu qui vient. Deuxième motivation, c'est que quand on est dans la prière ensemble, on apprend à se connaître et à s'aimer. Oui. Attends. Ah oui, OK, c'est beau. Il y a bien des années, le Seigneur m'a donné le privilège d'accompagner un jeune croyant qui commençait à explorer l'Église, la vie d'Église. Et je l'amenais dans les réunions de prière du mercredi soir. Autrefois, dans une église comme l'Oasis, il y avait à tous les mercredis soirs une réunion de prière dans le local. Je pense que l'Oasis avait ça avant, mais on a changé ça pour les groupes maison, puis c'est très bien. Mais à l'église où j'allais, puis c'était une autre église, c'était mercredi soir. Et après une de ces réunions du mercredi, ce jeune homme m'a dit, c'est vraiment toute une expérience d'entendre d'autres personnes prier à voix haute. C'est quand même assez malaisant. C'est comme, je trouve ça tellement intime que quelqu'un va parler à Dieu à voix haute et puis qu'il y a d'autres personnes qui écoutent. C'est tellement personnel et la personne dévoile quelque chose qui est profond à l'intérieur d'elle. Et puis c'est vrai. J'ai dit, c'est donc vrai. Puis ça fait longtemps que je suis habitué et j'ai perdu cette idée, mais c'est quelque chose de très personnel. Et donc, de participer à une réunion de prière, de partager mes besoins, mes craintes, les plus profondes peut-être, puis de prier ensemble pour ces choses-là, ça permet de nous découvrir les uns les autres dans le profond. C'est une expérience riche, profitons-en. Peut-être que tu as un certain malaise face à ça. N'ayons pas peur. Surmonte ta peur. Profitons-en. Dans la prière ensemble, aussi, on apprend à s'aimer, à se respecter, à s'écouter. Donc, je ne parle pas seulement de l'amour par « OK, tu veux que je prie pour ça, je vais prier pour toi. » C'est déjà un geste d'amour, oui. Mais durant la prière, on apprend à devenir sensible les uns aux autres. On est en train d'écouter trois réalités, trois personnes ou trois entités en même temps. On est en prière, en groupe, et puis le Saint-Esprit est en train de me parler dans mon cœur. Il y aurait ça qu'il faudrait prier. Ou bien, des fois, ça peut peut-être arriver, il y a telle chose qu'il faudrait prier, mais peut-être pas tout de suite. L'Esprit-Saint nous parle quand on prie. Mais la deuxième entité, c'est la communauté autour de toi. Il faut être sensible à ceux qui sont là aussi dans la réunion avec toi, qui veulent prier, qui ont des besoins, qui vivent des choses. On est sensible à eux. Et aussi, on est sensible à la personne qui anime la réunion, parce qu'elle doit donner parfois des directives. Et donc, c'est une belle expérience d'apprentissage, d'être à l'écoute de ces trois entités. Puis vous allez voir, vous allez vous améliorer avec le temps si vous êtes nouveau. L'Esprit-Saint bâtit l'amour que nous développons ensemble dans la prière. Comment procéder dans la réunion. Et je compare ça, moi, à une danse traditionnelle. Une réunion de prière, c'est comme une danse traditionnelle. Alors, donc ça, c'est une danse où est-ce qu'il faut apprendre les pas, il faut apprendre les principes. Et oui, il faut répéter, mais le résultat final, c'est quelque chose de très uni, très beau, et avec beaucoup d'éléments de courtoisie, de sensibilité, même de galanterie. Là, on le voit pas, mais dans les danses traditionnelles, des fois, c'est les hommes, un homme avec une femme, et puis, on vient en cercle, il y a toutes sortes de pas à apprendre, et c'est tout plein de respect mutuel. Et la prière devient comme cela. Vous savez que 1 Corinthiens 14 parle de ça. Paul écrit pour une église qui doit apprendre à prier ensemble. Et je vous invite à relire 1 Corinthiens 14 à la maison, mais les versets 29 à 32 disent ceci. Écoutez bien ça. Quant aux prophètes, donc ceux qui reçoivent des mots de Dieu, pour la communauté. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres écoutent et évaluent leur message. Pas à voix haute, mais évaluent discrètement qu'est-ce que ces mots apportent. Maintenant, si un autre membre de l'assistance a une révélation, c'est-à-dire si une autre personne reçoit quelque chose dans son cœur, que le premier se taise, ou que la personne qui est en train de parler se taise. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut parler. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Et ça continue. Alors, en réalité, dans une réunion de prière de l'Oasis, et c'est un peu la même chose. Différentes personnes reçoivent du Saint-Esprit soit une prière à élever. Ça peut venir du Saint-Esprit. Prie pour Lise, parce que je suis en train de te regarder. Marc, prie pour Lise. Elle a tel défi qui s'en vient c'est la semaine prochaine. Donc, c'est l'Esprit-Saint qui me le dit, mais et il faut que j'aille que je puisse avoir mon tour pour le dire, vous comprenez? Et ça peut être aussi un mot d'encouragement où je vais dire, bien, je sens que le Seigneur me dit quelque chose pour la communauté ou me donne un encouragement pour Lise. Même, je ne sais pas si ça pourrait arriver pour quelqu'un qu'on sait qu'elle a déjà parler de son problème au groupe. Et là aussi, donc, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Il y a eu une réunion récemment en bas où quelqu'un a senti qu'il fallait prier spécifiquement pour la guérison d'une personne. Donc, vous voyez, chacun reçoit, chacun est à l'écoute du Saint-Esprit et ensemble, dit Paul, on doit développer une sensibilité les uns aux autres. On est en train d'apprendre à s'occuper des besoins les uns des autres, à parler quand il faut parler, à se taire quand il faut se taire, quand une autre personne veut prier. Peut-être aussi permettre à un débutant, à une débutante, de prier pour la première fois, d'apprendre à prier à sa manière. Tout cela dans l'amour, et tout cela, ça bâtit notre esprit de corps. C'est ça que Paul voulait voir dans l'Église de Corinthe, sans arrêter les participations individuelles, au contraire. Maintenant, il y a une troisième motivation que je voulais vous dire. Nos prières peuvent faire toute une différence pour nos missionnaires et aussi pour les chrétiens persécutés. Nos prières peuvent changer le monde. Je recevais une fois, dans le passé, un bulletin de prière d'une association missionnaire où tu avais comme une requête par jour et tu priais pour tel couple missionnaire ou telle situation politique ou une telle situation d'église dans un autre pays. Et ce bulletin, je me souviendrai toujours du titre, « Les minutes qui changent le monde ». Et je me suis dit, oh, c'est encourageant parce que ce bulletin me requiert seulement des minutes. C'est pas trop difficile, mais des minutes qui peuvent changer le monde, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je crois à l'œuvre de Dieu dans le monde et je peux y contribuer par ma petite prière. C'est vrai que nos prières changent les choses. Le maître de l'univers, notre grand prêtre Jésus, les reçoit. Il est assis sur le trône de la grâce qui est dans les cieux. Il est tout le temps à notre écoute, nous dit Hébreux. Là où un couple missionnaire pourrait se sentir isolé, là, on a une photo des Howell, un couple pour lequel on prie dans notre église qui sont au Sénégal, dans un milieu quand même hostile où il y a un peuple, ils travaillent dans un peuple où l'église n'est pas encore présente, à part eux et quelques autres. Là où ils peuvent se sentir isolés, là où ils peuvent se sentir incertains devant une décision à prendre, devant un conflit à régler. Peut-être qu'ils sont découragés devant un barrage routier spirituel. Parfois, la seule manière pour nous de les aider, c'est d'invoquer Jésus, d'invoquer Dieu et son action pour eux. Et les chrétiens persécutés, c'est la même chose. Ils peuvent être en captivité. Parfois, la seule manière de les toucher, c'est par l'intercession. J'ai déjà entendu ce témoignage. Un prisonnier qui écrit à l'association missionnaire qui nous transmet leur requête, et qui dit, j'étais seul dans ma cellule et personne ne me parlait, mais j'ai senti dans mon esprit vos prières, les prières de chrétiens dans un autre pays qui venaient jusqu'à moi par le Saint-Esprit. Et ça m'a redonné courage, le courage dont j'avais besoin. Là où personne ne peut aller, ta prière peut aller. Est-ce que c'est pas puissant, ça? Oui. Amen. Oui. Eh bien, c'est très vrai. Évidemment, il faut le prendre par la foi. Il faut le pratiquer. Alors, voilà ce que Paul demande dans sa prison. Priez pour moi que j'ai la hardiesse et les mots pour parler de Christ même dans ma prison et même dans mon procès. Donc, prière qu'on peut faire seul, mais c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Mais prenons un moment maintenant. Je suis presque rendu à la fin. Bon, au fond, vous savez quoi? on va arrêter maintenant. Il est déjà tard. Mais prions maintenant pour les missionnaires et les chrétiens persécutés et pour nous-mêmes que nous relevions ce défi en cette période d'été de garder dans nos cœurs l'importance de prier ensemble dans les situations planifiées ou spontanées. Prions. Père de gloire, au nom de Jésus, notre grand prêtre, celui qui nous a dit « Venez avec hardiesse et confiance à mon trône de grâce. Dites-moi vos demandes, vos soucis. Oh, nous voulons te remettre tout d'abord nos missionnaires. Sois avec les Howell aujourd'hui, dans leurs problèmes d'aujourd'hui. Sois avec les Orr dans les Émirats arabes, avec leurs défis d'aujourd'hui. Encourage-les. Le problème qu'ils ont devant eux, donne-leur la solution, Seigneur. Et les chrétiens persécutés, moi, je sais qu'il y a des croyants fidèles en toi, Jésus, en Iran en ce moment. Il y en a plusieurs qui sont en prison, mais ils sont dans le pays, un pays qui est en guerre maintenant, et ils sont soupçonnés à tort d'être des espions pour leurs ennemis, pour l'ennemi du gouvernement de l'Iran. Et ça va augmenter leur souffrance. Il y en aura plus qui vont être mis en prison. Donc, d'une manière toute spéciale, je te remets les croyants du pays de l'Iran. Et je te remets d'une manière toute spéciale l'Église clandestine dans ce grand pays où ton esprit est à l'œuvre. Ô Seigneur, sois avec les chrétiens persécutés de l'Iran. Mais tu connais tous les autres. Dans beaucoup de pays, au Myanmar, au Yémen, en Corée du Nord, en Inde, ô Père de gloire, il y a tellement de frères et sœurs qui ont une vie chrétienne difficile et ils font face au découragement en ce moment même. Seigneur, prends notre prière commune et par le Saint-Esprit, viens toucher leur cœur maintenant, là où ils sont, pour avoir du courage. Et là où ils ont besoin d'aide matérielle, envoie un ange, un oiseau, un individu pour leur apporter ce dont ils ont besoin et plus. Soit avec nos missionnaires, soit avec nos frères et sœurs, au nom de Christ. Et oui, Seigneur, et pour chacun de nous, augmente notre désir de prier ensemble. Au nom de Christ, amen.